Cette femme était enfin la duchesse de Maufrigneuse, une demoiselle d'Uxelles dont le beau-père existait encore et qui ne fut princesse de Cadignan que plus tard. Amie de la duchesse de Langeais, amie de la vicomtesse de Beauséant, deux splendeurs disparues, elle était intime avec la marquise d'Espard, à qui elle disputait en ce moment la fragile royauté de la mode. Une parenté considérable la protégea pendant longtemps, mais elle appartenait à ce genre de femme qui, sans qu'on sache à quoi, où ni comment, dévorerait les revenus de la terre et ceux de la lune si l'on pouvait les toucher. Son caractère ne faisait que se dessiner, de Marsay seul l'avait approfondi. En voyant le vidame amenant Victurnien à cette délicieuse personne, ce redouté dandy se pencha vers l'oreille de Rastignac. « Mon cher, il sera, dit-il, sifflé comme un polichinelle par un cocher de fiacre. » Ce mot horriblement vulgaire prédisait admirablement les événements de cette passion. La duchesse de Maufrigneuse s'était affolée de Victurnien après l'avoir sérieusement étudié. Un amoureux qui eût vu le regard angélique par lequel elle remercia le vidame de Pamiers eût été jaloux d'une semblable expression d'amitié. Les femmes sont comme des chevaux lâchés dans une steppe, quand elles se trouvent, comme la duchesse en présence du vidame, sur un terrain sans danger. Elles sont naturelles alors, elles aiment peut-être à donner ainsi des échantillons de leur tendresse secrète. Ce fut un regard discret, d'œil à œil, sans répétition possible dans aucune glace, et que personne ne surprit. « Comme elle s'est préparée, dit Rastignac à Marsay. Quelle toilette de vierge, quelle grâce de cygne dans son col de neige, quel regard de madone inviolée, quelle robe blanche, quelle ceinture de petite fille. Qui dirait que tu as passé par là ?»« Mais elle est ainsi par cela même, répondit de Marsay d'un air de triomphe. » Les deux jeunes gens échangèrent un sourire. Madame de Maufrigneuse surprit ce sourire et devina le discours. Elle lança aux deux roués une de ces œillades que les Françaises ne connaissaient pas avant la paix et qui ont été importées par les Anglaises avec les formes de leur argenterie, leurs harnais, leurs chevaux et leurs piles de glace britanniques qui rafraîchissent un salon quand il s'y trouve une certaine quantité de ladies. Les deux jeunes gens devinrent sérieux comme des commis qui attendent une gratification au bout de la remontrance que leur fait un directeur. En s'amourachant de Victurnien, la duchesse s'était résolue à jouer ce rôle d'Agnès romantique que plusieurs femmes imitèrent pour le malheur de la jeunesse d'aujourd'hui. Madame de Maufrigneuse venait de s'improviser ange, comme elle méditait de tourner à la littérature et à la science vers 40 ans au lieu de tourner à la dévotion. Elle tenait à ne ressembler à personne. Elle se créait des rôles et des robes, des bonnets et des opinions, des toilettes et des façons d'agir originales. Après son mariage, quand elle était encore quasi jeune fille, elle avait joué la femme instruite et presque perverse. Elle s'était permis des réparties compromettantes auprès des gens superficiels, mais qui prouvaient son ignorance aux vrais connaisseurs. Comme l'époque de ce mariage lui défendait de dérober à la connaissance des temps la moindre petite année et qu'elle atteignait à l'âge de 26 ans, elle avait inventé de se faire immaculée. Elle paraissait à peine tenir à la terre. Elle agitait ses grandes manches comme si c'eût été des ailes. Son regard prenait la fuite au ciel, à propos d'un mot, d'une idée, d'un regard un peu trop vif. La Madone de Piola, ce grand peintre génois, assassiné par jalousie au moment où il était en train de donner une seconde édition de Raphaël, cette Madone la plus chaste de toutes et qui se voit à peine sous sa vitre dans une petite rue de Gênes, cette céleste Madone était une Messaline comparée à la duchesse de Maufrigneuse. Les femmes se demandaient comment la jeune étourdie était devenue, en une seule toilette, la séraphique beauté voilée qui semblait, suivant une expression à la mode, avoir une âme blanche comme la dernière tombée de neige sur la plus haute des Alpes. Comment elle avait si promptement résolu le problème jésuitique de si bien montrer une gorge plus blanche que son âme en la cachant sous la gaze. Comment elle pouvait être si immatérielle en coulant son regard d'une façon si assassine. Elle avait l'air de promettre 1000 voluptés par ce coup d'œil presque lascif quand, par un soupir ascétique, plein d'espérance pour une meilleure vie, sa bouche paraissait dire qu'elle n'en réaliserait aucune. Des jeunes gens naïfs, il y en avait quelques-uns à cette époque dans la garde royale, se demandaient si, même dans les dernières intimités, on tutoyait cette espèce de dame blanche, vapeur sidérale tombée de la voie lactée. Ce système, qui triompha pendant quelques années, fut très profitable aux femmes qui avaient leur élégante poitrine doublée d'une philosophie forte et qui couvrait de grandes exigences sous ses petites manières de sacristie. Pas une de ces créatures célestes n'ignorait ce que pouvait leur rapporter en bon amour l'envie qui prenait à tout homme bien né de les rappeler sur la terre. Cette mode leur permettait de rester dans leur empire semi-catholique et semi-océanique. Elles pouvaient et voulaient ignorer tous les détails vulgaires de la vie, ce qui accommodait bien des questions. L'application de ce système, deviné par de Marsay, explique son dernier mot à Rastignac, qu'il vit presque jaloux de Victurnien. « Mon petit, lui dit-il, reste où tu es. Notre Nucingen te fera ta fortune, tandis que la duchesse te ruinerait. C'est une femme trop chère. » Rastignac laissa partir de Marsay sans en demander davantage. Il savait son pari. Il savait que la plus précieuse, la plus noble, que la femme la plus désintéressée du monde, à qui l'on ne saurait faire accepter autre chose qu'un bouquet, devient aussi dangereuse pour un jeune homme que les filles d'opéra d'autrefois. En effet, il n'y a plus de filles d'opéra. Elles sont passées à l'état mythologique. Les mœurs actuelles des théâtres ont fait des danseuses et des actrices quelque chose d'amusant comme une déclaration des droits de la femme, des poupées qui se promènent le matin en mère de famille vertueuse et respectable avant de montrer leurs jambes le soir en pantalon collant dans un rôle d'homme. Du fond de son cabinet de province, le bon Chesnel avait bien deviné l'un des écueils sur lesquels le jeune comte pouvait se briser. La poétique auréole chaussée par Madame de Maufrigneuse éblouit Victurnien, qui fut cadenassé dans la première heure, attaché à cette ceinture de petite fille, accroché à ces boucles tournées par la main des fées. L'enfant déjà si corrompu, cru à ce fatras de virginités en mousseline, à cette suave expression délibérée comme une loi dans les deux chambres. Ne suffit-il pas que celui qui doit croire au mensonge d'une femme y croit ? Le reste du monde a la valeur des personnages d'une tapisserie pour deux amants. La duchesse était sans compliment, une des 10 plus jolies femmes de Paris, avouée, reconnue. Vous savez qu'il y a dans le monde amoureux autant de plus jolies femmes de Paris que de plus beaux livres de l'époque dans la littérature. À l'âge de Victurnien, la conversation qu'il eut avec la duchesse peut se soutenir sans trop de fatigue. Assez jeune et assez peu au fait de la vie parisienne, il n'eut pas besoin d'être sur ses gardes, ni de veiller sur ses moindres mots et sur ses regards. Ce sentimentalisme religieux, qui se traduit chez chaque interlocuteur en arrière-pensée très drôlatique, exclut la douce familiarité, l'abandon spirituel des anciennes causeries françaises. On s'y aime entre deux nuages. Victurnien avait précisément assez d'innocence départementale pour demeurer dans une extase fort convenable et non jouée, qui plut à la duchesse, car les femmes ne sont pas plus les dupes des comédies que jouent les hommes que des leurs. Madame de Maufrigneuse estima, non sans effroi, l'erreur du jeune comte à 6 bons mois d'amour pur. Elle était si délicieuse à voir en colombe, étouffant la lueur de ses regards sous les franges dorées de ses cils, que la marquise d'Espard, en venant lui dire adieu, commença par lui souffler « Bien, très bien, ma chère !» à l'oreille. Puis la belle marquise laissa sa rivale voyager sur la carte moderne du pays du tendre, qui n'est pas une conception aussi ridicule que le pensent quelques personnes. Cette carte se regrave de siècle en siècle, avec d'autres noms, et mène toujours à la même capitale. En une heure de tête-à-tête public, dans un coin, sur un divan, la duchesse amena d'Esgrignon aux générosités scipionesques, aux dévouements amadisiens, aux abnégations du Moyen-Âge qui commençait alors à montrer ses dagues, ses machicoulis, ses cottes, ses haubères, ses souliers à la poulaine et tout son romantique attirail de carton peint. Elle fut d'ailleurs admirable d'idées inexprimées et, fourrée dans le cœur de Victurnien comme des aiguilles dans une pelote, une à une, de façon distraite et discrète. Elle fut merveilleuse de réticence, charmante d'hypocrisie, prodigue de promesses subtiles qui fondaient à l'examen comme de la glace au soleil, après avoir rafraîchi l'espoir, enfin très perfide de désirs conçus et inspirés. Cette belle rencontre finit par le nœud coulant d'une invitation à venir la voir, passée avec ses manières chatemites que l'écriture imprimée ne peindra jamais. « Vous m'oublierez, disait-elle, vous verrez tant de femmes empressées à vous faire la cour au lieu de vous éclairer. Mais vous me reviendrez désabusée. Viendrez-vous auparavant ? Non, comme vous voudrez. Moi, je dis tout naïvement que vos visites me plairaient beaucoup. Les gens qui ont de l'âme sont si rares, et je vous en crois. Allons, adieu, l'on finirait par causer de nous si nous causions davantage. À la lettre, elle s'envola. Victurnien ne resta pas longtemps après le départ de la duchesse, mais il demeura cependant assez pour laisser deviner son ravissement par cette attitude des gens heureux, qui tient à la fois de la discrétion calme des inquisiteurs et de la béatitude concentrée des dévotes qui sortent absoutes du confessionnal. « Madame de Maufrigneuse est allée au but assez lestement ce soir, » dit la duchesse de Grandlieu, quand il n'y eut plus que 6 personnes dans le petit salon de Mademoiselle des Touches. Des Lupeaux, un maître des requêtes en faveur auprès de la duchesse, Vandenesse, la vicomte de Grandlieu et Madame de Sérisy. D'Esgrignon et Maufrigneuse sont deux noms qui devraient s'accrocher, répondit Madame de Sérisy, qui avait la prétention de dire des mots. Depuis quelques jours, elle s'est mise au vert dans le platonisme, dit des Lupeaux. Elle ruinera ce pauvre innocent, dit Charles de Vandenesse. Comment l'entendez-vous ? Demanda Mademoiselle des Touches. Oh, moralement et financièrement, ça ne fait pas de doute, dit la vicomtesse en se levant. Ce mot cruel eut de cruelles réalités pour le jeune comte d'Esgrignon. Le lendemain matin, il écrivit à sa tante une lettre où il lui peignit ses débuts dans le monde élevé du faubourg Saint-Germain, sous les vives couleurs que jette le prisme de l'amour. Il expliqua l'accueil qu'il recevait partout, de manière à satisfaire l'orgueil de son père. Le marquis se fit lire 2 fois cette longue lettre et se frotta les mains en entendant le récit du dîner donné par le vidame de Pamiers, une vieille connaissance à lui, et de la présentation de son fils à la duchesse. Mais il se perdit en conjectures sans pouvoir comprendre la présence du fils cadet d'un juge, du sieur Blondet, qui avait été accusateur public pendant la Révolution. Il y eut fête ce soir-là dans le cabinet des Antiques. On s'y entretint des succès du jeune comte. On fut si discret sur Madame de Maufrigneuse que le chevalier fut le seul homme à qui l'on se confia. Cette lettre était sans post-scriptum financier, sans la conclusion désagréable relative aux nerfs de la guerre que tout jeune homme ajoute en pareil cas. Mademoiselle Armande communiqua la lettre à Chesnel. Chesnel fut heureux sans élever la moindre objection. Il était clair, comme le disaient le chevalier et le marquis, qu'un jeune homme aimé par la duchesse de Maufrigneuse allait être un des héros de la cour, où, comme autrefois, on parvenait à tout par les femmes. Le jeune comte n'avait pas mal choisi. Les douairières racontèrent toutes les histoires galantes des Maufrigneuses depuis Louis XIII jusqu'à Louis XVI. Elles firent grâce des règnes antérieurs. Enfin, elles furent enchantées. On loua beaucoup Madame de Maufrigneuse de s'intéresser à Victurnien. Le cénacle du cabinet des Antiques eût été digne d'être écouté par un auteur dramatique qui aurait voulu faire de la vraie comédie. Victurnien reçut des lettres charmantes de son père, de sa tante, du chevalier, qui se rappelait au souvenir du vidame, avec lequel il était allé à Spa lors du voyage que fit, en 1778, une célèbre princesse hongroise. Chesnel écrivit aussi. Dans toutes les pages éclatait l'adulation à laquelle on avait habitué ce malheureux enfant. Mademoiselle Armande semblait être de moitié dans les plaisirs de Madame de Maufrigneuse. Heureux de l'approbation de sa famille, le jeune comte entra vigoureusement dans le sentier périlleux et coûteux du dandysme. Il eut 5 chevaux. Il fut modéré. De Marsay en avait 14. Il rendit au vidame, à De Marsay, à Rastignac et même à Blondet, le dîner reçu. Ce dîner coûta 500 francs. Le provincial fut fêté par ces messieurs, sur la même échelle, grandement. Il joua beaucoup et, malheureusement, au whist, le jeu à la mode. Il organisa son oisiveté de manière à être occupé. Victurnien alla tous les matins de 12h à 15h chez la duchesse. De là, il la retrouvait au bois de Boulogne, lui à cheval, elle en voiture. Si ces 2 charmants partenaires faisaient quelques parties à cheval, elles avaient lieu par de belles matinées. Dans la soirée, le monde, les bals, les fêtes, les spectacles, se partageaient les heures du jeune comte. Victurnien brillait partout, car partout il jetait les perles de son esprit. Il jugeait par des mots profonds les hommes, les choses, les événements. Vous eussiez dit d'un arbre à fruits qui ne donnait que des fleurs. Il mena cette lassante vie où l'on dissipe plus d'âme encore peut-être que d'argent, où s'enterrent les plus beaux talents, où meurent les plus incorruptibles probités, où s'amollissent les volontés les mieux trempées. La duchesse, cette créature si blanche, si frêle, si ange, se plaisait à la vie dissipée des garçons. Elle aimait à voir les premières représentations, elle aimait le drôle, l'imprévu. Elle ne connaissait pas le cabaret. D'Esgrignon lui arrangea une charmante partie au Rocher de Cancale, avec la société des aimables roués qu'elle pratiquait en les moralisant, et qui fut d'une gaieté, d'un spirituel, d'un amusant égal au prix du souper. Cette partie en amena d'autres. Néanmoins, ce fut pour Victurnien une passion angélique. Oui, Madame de Maufrigneuse restait un ange que les corruptions de la terre n'atteignaient point. Un ange aux variétés devant ces farces à demi obscènes et populacières qui la faisaient rire. Un ange au milieu du feu croisé des délicieuses plaisanteries et des chroniques scandaleuses qui se disaient aux parties fines. Un ange pâmé au vaudeville en loge grillée. Un ange en remarquant les poses des danseuses de l'opéra et les critiquant avec la science d'un vieillard du coin de la Reine. Un ange à la porte Saint-Martin. Un ange au petit théâtre du boulevard. Un ange au bal masqué où elle s'amusait comme un écolier. Un ange qui voulait que l'amour vécût de privation, d'héroïsme, de sacrifice et qui faisait changer à Desgrignon un cheval dont la robe lui déplaisait, qui le voulait dans la tenue d'un lord anglais riche d'un million de rentes. Elle était un ange au jeu. Certes, aucune bourgeoise n'aurait su dire angéliquement comme elle à Desgrignon « Mettez au jeu pour moi !» Elle était si divinement folle quand elle faisait une folie que c'était à vendre son âme au diable pour entretenir cet ange dans le goût des joies terrestres. Après son premier hiver, le jeune comte avait pris chez M. Cardot, qui se gardait bien d'user de droits de remontrance, la bagatelle de 30 000 francs au-delà de la somme envoyée par Chesnel. Un refus extrêmement poli du notaire à une nouvelle demande apprit ce débet à Victurnien, qui se choqua d'autant plus du refus qu'il avait perdu 6 000 francs au club et qu'il les lui fallait pour y retourner. Après s'être formalisé du refus de Maître Cardot, qui avait eu pour 30 000 francs de confiance en lui, tout en écrivant à Chesnel, mais qui faisait sonner haut cette prétendue confiance devant le favori de la belle duchesse de Maufrigneuse, Desgrignon fut obligé de lui demander comment il devait s'y prendre, car il s'agissait d'une dette d'honneur. « Tirez quelques lettres de change sur le banquier de votre père, portez-les à son correspondant qui les escomptera sans doute, puis écrivez à votre famille d'en remettre les fonds chez ce banquier. » Dans la détresse où il était, le jeune comte entendit une voix intérieure qui lui jeta le nom de Ducroisier, dont les dispositions envers l'aristocratie, au genou de laquelle il l'avait vu, lui étaient complètement inconnues. Il écrivit donc à ce banquier une lettre très dégagée par laquelle il lui apprenait qu'il tirait sur lui une lettre de change de 10 000 francs dont les fonds lui seraient remis ou reçus de sa lettre par M. Chesnel ou par Mademoiselle Armande d'Esgrignon. Puis il écrivit 2 lettres attendrissantes à Chesnel et à sa tante. Quand il s'agit de se précipiter dans les abîmes, les jeunes gens font preuve d'une adresse, d'une habileté singulière. Ils ont du bonheur. Victurnien trouva dans la matinée le nom, l'adresse des banquiers parisiens en relation avec Ducroisier, les Keller que de Marsay lui indiqua. De Marsay savait tout à Paris. Les Keller remirent à Desgrignon sous escompte, sans mot dire, le montant de la lettre de change. Ils devaient à Ducroisier. Cette dette de jeu n'était rien en comparaison de l'état des choses au logis. Il pleuvait des mémoires chez Victurnien. « Tiens, tu t'occupes de ça, » dit un matin Rastignac à Desgrignon en riant. « Tu les mets en ordre, mon cher. Je ne te croyais pas si bourgeois. Mon cher enfant, il faut bien y penser. J'en ai là pour 20 et quelques 1 000 francs. » De Marsay, qui venait chercher Desgrignon pour une course au clocher, sortit de sa poche un élégant petit portefeuille, y prit 20 000 francs et les lui présenta. « Voilà, dit-il, la meilleure manière de ne pas les perdre. Je suis aujourd'hui doublement enchanté de les avoir gagnés hier à Milord Dudley. » Cette grâce française séduisit au dernier point Desgrignon, qui crut à l'amitié, qui ne paya point ses mémoires et se servit de cet argent pour ses plaisirs.